Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez tout ouïe, non ?
Non.
Reinaldo Arenas, adios a mama.
La tour de verre.
Depuis qu'il était arrivé à Miami, après avoir vécu une véritable odyssée pour quitter son pays d'origine, le célèbre écrivain cubain Alfredo Fuentes n'avait plus écrit une seule ligne.
D'une façon ou d'une autre, depuis cette date, 5 ans déjà s'étaient écoulés, il avait été sollicité sans arrêt pour faire une conférence, assister à un quelconque événement culturel, participer à un cocktail ou à un dîner d'intellectuels, où il figurait toujours comme l'invité d'honneur. C'est bien pourquoi on ne le laissait pas manger et encore moins réfléchir aux romans ou récits que depuis de longues années il mijotait dans sa tête et dont les personnages
Bertha, Nicolas, Delphine, Daniel et Olga
attiraient constamment son attention afin qu'ils s'occupent de leurs tragédies respectives.
L'intégrité morale de Bertha, l'intransigeance devant la médiocrité de Nicolas, l'intelligence aiguë de Delphine, l'esprit solitaire de Daniel et la douce et silencieuse sagesse d'Olga non seulement exigeaient de lui une attention qu'il n'avait pas le temps de leur accorder, mais en outre, telle était l'impression d'Alfredo. Il lui reprochait de passer son temps à se réunir avec ces gens-là.
Le plus lamentable de l'histoire, c'est qu'Alfredo détestait ces réunions, mais étant incapable de décliner une invitation aimable...
Et quelle invitation ne l'est pas ?
Il cédait toujours.
Une fois sur place, il se montrait si brillant en société qu'il avait réussi à se forger une réputation.
Surtout parmi les écrivains du cru.
D'homme frivole, voire exhibitionniste.
D'ailleurs, au stade où il en était, refuser ces réunions aurait été interprété par tout le monde,
y compris par ceux qui lui reprochaient d'être aussi communicatif,
comme une preuve évidente de mauvaise éducation, d'égoïsme et même de complexe de supériorité.
Bref, Alfredo était tombé dans un piège dangereux.
S'il continuait de faire honneur aux invitations continuelles, il n'écrirait plus jamais. Et dans le cas contraire, son prestige même d'écrivain en souffrirait au point,
il le savait bien,
de s'évanouir.
Mais il faut reconnaître qu'Alfredo Fuentes aurait préféré se trouver dans son petit appartement tout à fait seul, c'est-à-dire en compagnie d'Olga, de Delphine, de Bertha, de Nicolas et de Daniel, plutôt que de passer son temps au cœur de cette multitude complaisante.
Ces derniers temps, l'appel de ces personnages devenait si urgent et son désir de leur répondre si insistant qu'il s'était promis à lui-même, il y avait à peine quelques heures, de suspendre toutes ses activités sociales pour se consacrer entièrement à son roman, récit ou nouvelle, car il ne savait même pas encore à coup sûr où cela le mènerait.
Oui, dès demain, il reprendrait ses mystérieuses activités solitaires.
Dès demain, car pour ce qui est de ce soir, il lui était pratiquement impossible de manquer la grande réception offerte en son honneur par Madame Gladys Pérez Campo, la meilleure hôtesse des lettres cubaines en exil, que Puntilla lui-même avait baptisée pour le meilleur et pour le pire,
la Haide Samantaria de l'exil.
Il s'agissait donc d'une activité de nature culturelle, mais aussi pratique.
Gladys avait promis à l'écrivain de fonder le soir même une maison d'édition afin de publier les manuscrits qu'il avait fait sortir de Cuba en risquant gros.
Ce qui, en outre, serait une aide économique pour Alfredo.
Lequel, entre parenthèses, crevait de faim.
Et contribuerait aussi à la promotion d'autres auteurs importants, mais inconnus, bien que ce ne fût pas le cas d'Alfredo qui avait déjà 5 livres à son actif.
La maison d'édition sera un succès, lui avait assuré Gladys au téléphone.
Les personnalités les plus importantes de Miami te soutiendront. Elles seront toutes présentes ce soir à la réception. Je t'attends à 9h. Viens sans faute.
5 minutes avant 9h, Alfredo traversa le vaste parc bien entretenu des Pérez Campo et se présentait au portail de la villa.
L'arôme des fleurs embaumait par bouffées et une agréable musique arrivait du haut de la résidence.
Au son de cette musique, Alfredo passa la main sur la façade de la maison et la quiétude de la nuit, ainsi que le mur épais et le parc lui communiquèrent une sensation de sécurité, presque de paix, que depuis de longues années,
trop longues,
il n'éprouvait plus.
Alfredo aurait préféré rester dehors, seul avec ses personnages, à écouter la musique de loin.
Mais, ayant toujours dans l'idée le solide projet d'édition qui peut-être lui permettrait un jour d'acquérir une propriété comme celle-ci, et qui, d'autre part, représentait le salut futur d'Olga, Daniel, Delphine, Bertha et Nicolas, il sonna à la porte de la résidence.
Avant que l'une des serveuses embauchées pour la durée de la réception ne lui ouvre la porte, l'énorme chienne Saint-Bernard, qui appartenait au Pérez Campo, se jeta sur Alfredo et lui lécha la figure.
La familiarité de la grande chienne,
elle s'appelait Narcissa,
éveilla l'amour des autres animaux, 6 chihuahuas, dont les aboiements étaient autant de clameurs qui donnèrent à leur façon la bienvenue à Alfredo.
Fort heureusement, Gladys vint délivrer son invité d'honneur.
Habillée avec élégance, bien que de manière peu adaptée au climat,
longue jupe à la cheville, étole, gants et grand chapeau,
la Pérez Campo prit Alfredo par le bras et l'introduisit dans le cercle des invités tirés sur le volet, ceux-là même qui s'intéressaient au projet d'édition.
Solennelle et enjouée, Gladys présenta Alfredo au président de l'une des banques les plus importantes de la ville.
En imagination, Alfredo vit Bertha faire une grimace de dégoût.
Au sous-directeur du Florida Herald, le quotidien le plus influent de Miami.
Un journal épouvantable et anti-cubain, il entendit de loin la voix de Nicolas.
À la première secrétaire de Madame le gouverneur de l'État et à une poétesse couronnée.
Une bonne paire de harpies. Alfredo entendit alors clairement la voix sarcastique de Delphine.
Les présentations continuèrent avec un insigne révérend, célèbre professeur de théologie et leader de la soi-disant réunification des familles cubaines.
« Qu'est-ce que tu fais parmi ces canailles ?»
s'écriait désespéré Daniel de très loin. Si bien qu'en serrant la main d'une éminente chanteuse d'opéra, Alfredo trébucha ce qui lui fit plonger le nez dans l'opulente poitrine de la cantatrice.
Comme si de rien n'était, Gladys continuait les présentations.
Une remarquable pianiste,
2 guitaristes,
plusieurs professeurs et enfin...
La Gladys adopta une posture royale.
La comtesse de Villalta, née dans la province de Pinar del Rio, une dame âgée, n'ayant plus ni terre ni château, mais encore accrochée à son brillant titre de noblesse.
Précisément, alors qu'il faisait une discrète révérence à la comtesse, Alfredo sentit que les personnages de son œuvre en herbe recommençaient à le réclamer d'urgence. C'est pourquoi, tout en baissant la main de la dame, il essaya d'attraper un stylo-bille et un bout de papier qu'il avait toujours sur lui, dans l'espoir de prendre quelques notes.
Geste qui fut mal interprété par la comtesse.
« Je vous remercie infiniment de me donner votre adresse, »
lui dit la dame.
« Mais comprenez-vous, le moment est mal choisi. Je vous promets de vous envoyer ma carte. »
Sans autre forme de procès, elle se tourna vers la poétesse couronnée qui observait la scène et qui dit à Alfredo, apparemment dans l'intention de lui venir en aide,
« Du moment que vous avez presque noté votre adresse, vous n'avez qu'à me la donner. Je tiens beaucoup à vous envoyer mon dernier livre. »
Au lieu de prendre les notes que ces personnages réclamaient,
déjà Olga gémissait et Bertha poussait des cris.
Alfredo dut inscrire son adresse sur ce papier.
Des plateaux circulaient, débordant de fromages variés, de canapés, de petits fours et de boissons.
Ces plateaux, en raison de nouvelles salutations et interrogations, Alfredo les voyait arriver et repartir sans pouvoir même y toucher.
À minuit, Gladys annonça que la soirée, pour plus d'intimité, se poursuivait dans la tour de verre.
Tous les convives poussèrent un «
Ah !»
de satisfaction.
Jusque et y compris la comtesse.
Aussitôt, sous la conduite de l'élégante maîtresse de maison, ils se mirent en marche.
La tour de verre se dressait, circulaire et transparente, à côté de la maison, comme une gigantesque cheminée.
Tandis qu'ils gravissaient péniblement l'escalier tortueux en colimaçon,
seule la comtesse se faisait transporter sur une chaise spéciale dessinée pour la circonstance.
Alfredo entendit de nouveau les réclamations urgentes de ses personnages.
Du fond de son emprisonnement dans la lointaine ville d'Holguim, Delphine demandait qu'on ne l'oublie pas.
De New York, Daniel grognait, à la fois blessé et menaçant.
D'un petit village de France, Olga, la douce Olga, celle aux feuilles de papier vierge, lui lançait des regards chargés de reproches et de mélancolie.
Tandis que Nicolas et Bertha, sur place à Miami, réclamaient avec fureur leur participation imminente au récit pas encore commencé.
D'un geste compréhensif, Alfredo tenta de les arrêter provisoirement, mais en levant la main, il dérangea la coiffure compliquée de la pianiste qui allait devant lui et qui le regarda encore plus enfoncé que Bertha.
Ils étaient tous arrivés dans la tour de verre et Alfredo attendait impatiemment le début des conversations sérieuses.
C'est-à-dire que l'on se mette à discuter du projet d'édition et des premiers auteurs à publier.
Mais les musiciens, sur un signe très élégant de Gladys,
qui, sans que personne ne s'en aperçût, avait changé de toilette et arborait à présent une tenue encore plus somptueuse,
avait commencé à jouer.
Le président de la banque dansait avec l'épouse du sous-directeur du Florida Herald, qui, de son côté, dansait avec la secrétaire de Madame la gouverneure.
Un universitaire tournoyait professionnellement dans les bras vigoureux de la cantatrice. Seul le surpassait la poétesse couronnée qui, dans un solo digne d'applaudissements, ondoya finalement, à coups de talons, avec des mouvements frénétiques des hanches et des épaules, près d'Alfredo, auquel il ne resta plus d'autre alternative que d'entrer dans la danse.
Le morceau s'acheva enfin, et Alfredo crut que l'on allait aborder le thème central de cette réunion.
Mais sur un nouveau geste de Gladys, l'orchestre attaqua une danse espagnole.
Le révérend lui-même, à vrai dire dans les bras de la vieille comtesse, esquissa quelques pas avec une grande pondération.
Tandis que la danse se poursuivait,
déjà la cantatrice faisait étalage de ses vocalises.
Alfredo crut entendre clairement les voix de ses personnages maintenant tout proches.
Sans cesser de danser, il s'approcha des vides de la tour et vit dans le parc Olga qui s'agitait désespérément entre les géraniums en demandant par geste à être délivrée.
Plus loin, sur l'un des ficus parfaitement taillés, Daniel pleurait.
Au même instant, la cantatrice multipliait ses vocalises.
Alfredo sentit qu'il ne pouvait se pardonner à lui-même son indolence et, attrapant au vol une serviette de table, il commença avec témérité,
sans cesser de danser,
à prendre quelques notes.
« En voilà une façon de danser !»
l'interrompit le sous-directeur du Florida Herald.
« Est-ce que par hasard vous écrivez aussi les pas que vous faites ?»
Alfredo ne sut que répondre.
En outre, le regard à la fois méfiant et vif de la pianiste le désarma.
Séchant la sueur de son front avec la serviette, il baissa les yeux, gêné, en essayant de se reprendre, mais en levant la tête, il découvrit Nicolas, Bertha et Delphine collés aux vitres de la tour.
Oui, de divers points, ils étaient venus par les airs et maintenant ils étaient là, dehors, à frapper aux carreaux des fenêtres, à réclamer d'Alfredo qu'il les fasse entrer,
les fasse vivre
dans les pages de son roman, récit ou nouvelle, qu'il n'avait même pas commencé.
Excités, les six chiennes chihuahuas se mirent à aboyer et Alfredo se dit qu'elles avaient découvert à leur tour ces personnages.
Mais par bonheur, il s'agissait simplement de l'une de ses trouvailles.
Délicate attention, selon la comtesse.
De Gladys pour distraire ses invités.
Ce fut d'ailleurs une réussite.
En effet, au rythme de ses pas et de la batterie de l'orchestre, les chihuahuas, entourant Narcisa, imitèrent sur deux pattes tous les pas d'une danse endiablée dont Narcisa était précisément la figure centrale.
Un instant, Alfredo crut remarquer que la gigantesque chienne Saint-Bernard tournait vers lui un regard attristé.
Finalement, les applaudissements éclatèrent et l'orchestre attaqua un Danzen.
Bertha, Nicolas et Delphine frappèrent Ovide plus violemment, tandis qu'Alfredo, de plus en plus nerveux, tournoyait dans les bras de la poétesse couronnée, Madame Clara del Prado.
N'avions-nous pas encore dit son nom ?
Qui, au même instant, avouait à l'écrivain à quel point il était difficile de publier un recueil de vers.
« Je comprends cela fort bien !» approuva distraitement Alfredo, en regardant ces personnages qui se débattaient derrière les carreaux, comme de grands insectes attirés par la lumière d'une lampe hermétiquement close.
« Vous ne pouvez pas le comprendre !» objecta la voix de la poétesse.
« Pourquoi pas ?»
Maintenant, du fond du parc,
Daniel et Olga semblaient s'être mis d'accord pour sangloter à l'unisson.
« Parce que vous êtes romancier et que le roman se vend toujours mieux que la poésie, surtout lorsqu'il s'agit d'un romancier célèbre, comme dans votre cas. »«
Ne me faites pas rire !»
Déjà, les sanglots de Daniel et Olga étaient devenus des cris désespérés, finissant par de véritables appels au secours.
« Sauve-nous ! Sauve-nous !»«
Allez, mon vieux !» lui intima la poétesse couronnée. « Pas de fausse modestie, dites donc. De vous à moi, combien s'élèvent annuellement vos royalties ?»
Comme si les cris venant du parc ne suffisaient pas à mettre n'importe qui hors de ses gonds,
Nicolas et Bertha prétendaient maintenant briser les carreaux de la tour, sous l'approbation enthousiaste de Delphine.
« Des royalties ? Ne me faites pas rire ! Vous ne savez pas qu'il n'y a pas de droit d'auteur à Cuba et que tous mes livres ont été publiés à l'étranger, alors que je me trouvais dans mon pays.
« Sauve-nous, ou bien on défonce la porte !»
C'était sans aucun doute la voix furieuse de Bertha.
« Là-bas, ce sont des voleurs, je le comprends. Mais les autres pays n'ont pas appliqué les lois cubaines. »
À coups de poing et de pied, Bertha et Nicolas frappaient au carreau,
tandis que les cris s'élevaient toujours du parc.
Les autres pays s'abritent derrière toute loi, leur permettant de voler impunément, conclut Alfredo à haute voix, sur le point de plaquer la poétesse pour secourir d'une façon ou d'une autre ces personnages, lesquels, contrairement à l'usage, paraissaient s'asphyxier à l'extérieur.
Mais alors, comment pensez-vous fonder la grande maison d'édition ?
S'enquit avec un regard coquin la poétesse couronnée. Puis elle ajouta l'air complice.
Allez, mon vieux. « Je n'ai pas l'intention de vous emprunter de l'argent. Je veux seulement plier mon petit bouquin. »
D'une manière qu'Alfredo ne pouvait s'expliquer,
Bertha avait réussi à introduire la main entre les carreaux, puis, à la surprise de son créateur, elle poussa une espagnolette et ouvrit l'une des fenêtres de la tour.
« Écoutez, madame, » conclut sèchement Alfredo, « je n'ai pas un sou. Quant à la maison d'édition, je suis ici pour voir comment vous allez la créer, vous autres, afin d'y publier également mes livres. »
On nous a tous informés, mais que c'est vous qui alliez en être le commanditaire.
Au même instant,
Delphine glissa le long de la tour et resta dangereusement accrochée par les doigts sur le rebord de la fenêtre ouverte.
Attention ! S'écria Alfredo en regardant vers la fenêtre pour essayer d'empêcher la chute de son personnage.
J'avais cru que nous autres poètes, « nous étions les seuls fous !»
dit la poétesse en regardant fixement Alfredo.
« Mais je vois que les romanciers le sont deux fois plus !»«
Et même trois !» répliqua Alfredo en se précipitant à la fenêtre pour délivrer Delphine.
Au même moment, Bertha Gonzalez et Nicolas Landrov s'introduisirent au salon.
Alfredo eut honte que Nicolas, Bertha et Delphine Pratt,
auxquels il venait de sauver la vie,
le surprennent entouré de ses personnages, au lieu d'être en train de travailler avec eux. C'est pourquoi, sans attendre la tenue de la fameuse réunion et éprouvant de plus en plus le besoin d'emmener ses personnages avec lui, il décida de prendre congé de la maîtresse de maison et des autres invités.
Suivi de Narcisa, qui lui flairait la jambe, il se dirigea vers eux.
Mais une tension étrange régnait dans la tour.
Soudain, plus personne ne prêtait attention à Alfredo.
Pire, on aurait dit qu'il était devenu invisible.
D'une voix tintinabulante, la poétesse couronnée venait de communiquer quelque chose à Gladys et à ses amis, qui prenaient la mine de personnes à la fois étonnées et vexées.
Alfredo n'eut pas besoin d'être écrivain pour deviner que l'on parlait de lui, pas précisément en termes élogieux.
Il entendit Gladys Pérez Campo dire à voix basse sur un ton indigné.
« Qu'il s'en aille !»
Mais tout en comprenant, quoique surpris, que ces mots lui étaient destinés, il se sentit si déconcerté qu'il n'avait pas suffisamment de volonté pour les assumer.
D'ailleurs, on ne les avait pas adressés directement à Alfredo, on les avait simplement prononcés pour qu'il les capte, car les bonnes manières et l'élégance de Gladys lui interdisaient de faire un esclandre. Encore plus de jeter dehors l'un de ses invités.
Pour cette raison, toujours pour essayer de délivrer ses personnages qui, d'ailleurs, ne s'intéressaient plus du tout à lui, Alfredo fit la sourde oreille et tenta de se mêler à la conversation.
Mais la comtesse le foudroya du regard avec tant de mépris que l'écrivain, encore plus confus, se retira dans un coin et alluma une cigarette.
Mais d'autre part, n'était-ce pas faire preuve de très mauvaise manière que de se retirer sans prendre congé des invités et de la maîtresse de maison?
Pour comble de malheur, à ce moment-là, Delphine Pratt ouvrait la porte qui communiquait avec l'escalier en colimaçon, livrant passage à Daniel Fernandez et à Olga.
En se tenant par la main et sans même jeter un coup d'œil à Alfredo, ils se joignirent à Nicolas Landrov et à Berta González de Valier, qui, ayant déjà bu quelques verres, était éméché.
Une fois de plus, Alfredo sentit la queue de Narcisa lui caresser les jambes.
Maintenant, les cinq personnages de sa nouvelle...
Car du moins, savait-il enfin que ces gens-là n'étaient bons que pour une nouvelle ?
Arpentaient le salon avec délectation, furetant partout, aussi curieux que calculateur.
Alfredo fit un effort mental extraordinaire pour qu'il se retire.
Ce qu'il y a de sûr... c'est qu'ils ne lui obéirent pas.
Bien au contraire. En se mêlant au groupe des invités tirés sur le volet, la crème des crèmes, ils se présentaient les uns les autres à coups de révérence et de salamèque raffinés.
Dans son coin, caché derrière la fumée de sa cigarette et un immense arequier, Alfredo détailla soigneusement ses cinq personnages et découvrit que pas un n'était habillé comme il l'avait prévu.
Olga, soi-disant si timide et si douce, était outrageusement maquillée et se pavanait dans une mini-jupe moulante en faisant une mimique exagérée, presque des grimaces, tout en riant bruyamment de la blague qui venait de lui raconter le chef de la réunification des familles.
Quant à Berta et à Nicolas, les personnages intègres et intransigeantes, d'après la création d'Alfredo, ils étaient tout sucre, au comble de l'adulation, devant la secrétaire de Madame le gouverneur.
À ce moment donné, Alfredo crut même comprendre qu'il lui demandait un prêt pour ouvrir une pizzeria au centre-ville.
De son côté, Daniel,
l'introverti solitaire,
s'était déjà présenté comme Daniel Fernandez Trorellos et racontait des histoires si grivoises à la poétesse couronnée que la vieille comtesse changea discrètement de place.
Mais le sans-gêne semblait culminer chez le talentueux Delphine Pratt Pupo.
Tandis qu'il buvait une bière,
la cinquième, la septième,
au goulot, il parodiait son créateur, c'est-à-dire Alfredo Fuentes, d'une façon non seulement grotesque, mais encore d'une implacable obscénité.
Avec une maestria diabolique, Delphine Pratt Pupo imita, en les exagérant, tous les tics, gestes et manies de l'écrivain, y compris sa façon de parler, de marcher, voire de respirer.
Alfredo apprit alors qu'il était à moitié bègue, qu'il marchait la bedaine en avant, et qu'il avait les yeux à fleur de tête.
Tandis qu'il observait les moqueries de son personnage préféré faisait à ses dépens, il lui fallut supporter aussi que la chienne Saint-Bernard, passionnée, vienne lui lécher la figure.
Le pire, c'est qu'avec ses grands airs d'écrivain de génie et ses gestes ridicules, il n'a pas le moins de talent. Et il fait des fautes d'orthographe. Même mon nom de famille, il lui arrive parfois de l'écrire sans T, conclut Delphine Pratt Pupo péremptoire.
De nouveau, tous éclatèrent de rire avec ce curieux tintement de coupe qui s'entrechoque.
Alfredo, encore plus nerveux, alluma une autre cigarette. Mais il la jeta par terre en s'apercevant que Delphine Pratt Pupo minant ses gestes, allumait aussi une cigarette.
L'un des serviteurs de service le lui reprocha.
« Monsieur, ramassez votre mégot, à moins que vous ne vouliez brûler le tapis. »
Alfredo se baissa pour ramasser son mégot, et dans cette position, il put constater que tous les invités produisaient le curieux tintement, chuchotaient entre eux en le regardant avec mépris.
Alors, en se dégageant violemment des pattes de la chienne Saint-Bernard qui poussa un hurlement pitoyable, il s'approcha des invités pour découvrir ce qui se passait avec sa personne.
Dès qu'il fit son apparition dans le groupe, la secrétaire de Madame le Gouverneur annonça sans le regarder son départ imminent.
Comme mû par un ressort, ils décidèrent tous qu'il était temps de s'en aller.
Elle partait, la comtesse portée sur sa grande chaise, tandis que la plupart des invités lui baissaient la main, devenue transparente.
C'est ainsi que la voyait Alfredo.
Elle partait, la célèbre cantatrice, au bras...
vraiment transparent.
...du président de la banque.
Il partait, le révérend qui bavardait avec animation avec la pianiste, dont le visage était de plus en plus brillant et lisse.
Elle partait, la poétesse couronnée, avec Daniel Fernandez. Et quand celui-ci l'a pris par la taille, Alfredo vit que la main du jeune homme plongeait sans effort dans un corps translucide.
Mais bientôt, la main de Daniel Fernandez aussi devint invisible, si bien que les deux silhouettes se confondirent.
Ils partaient, tous les musiciens noirs conduits par Delphine Prade-Pupot, qui bondissait parmi eux avec allégresse, en produisant le son de clochettes connues et imitant les gestes de l'écrivain, qui ne pouvait rien faire pour l'en empêcher.
Elle partait, Olga Neschen de Lévian, les mains entrelacées à celles d'un professeur de mathématiques.
Au cours de la débandade, Berta González del Val bourrait son sac à main de fromage français.
Et Nicolas Landroff Felipe faisait main basse sur la confiserie, ignorant tous les deux les signes d'Alfredo et les protestations de Gladys Perrocampo, qui, en quittant les lieux, accompagnée de ses chihuahuas, menaçait d'appeler la police.
Mais sa voix se transformait de plus en plus en un son de clochette inintelligible.
En quelques minutes, la maîtresse de maison, les invités et même le personnel disparurent avec les personnages de la nouvelle et Alfredo se retrouva seul dans l'immense villa.
Déconcerté, il s'apprêtait à partir quand un fracas de grues et de camions retentit dans les parages.
Brusquement, les fondations de la maison se mirent à trembler.
La toiture disparut.
Les tapis s'enroulèrent automatiquement.
Les vitres séparées de leur châssis s'envolaient dans les airs.
Les portes sortaient de leurs gonds.
Les tableaux quittaient les murs.
Et les murs, se décollant à une vitesse inouïe, étaient transportés, ainsi que tout le reste, dans un véhicule gigantesque.
Tandis que tout était démonté et emballé, Alfredo put constater...
Et déjà on emportait le parc en plastique avec ses arbres, ses murs et ses parfumeurs mécaniques.
Que cette villa n'était qu'un énorme préfabriqué en carton que l'on pouvait installer et démonter rapidement et qui se louait à la journée, voire à l'heure. D'après la publicité placardée sur le gigantesque camion où tout était embarqué.
Soudain, sur le site où s'était élevée une résidence imposante, il n'y avait plus qu'un terre-plein poussiéreux au milieu duquel Alfredo, encore perplexe, ne retrouvait pas,
puisqu'il n'existait pas,
le chemin qui le ramènerait en ville.
Au hasard, il se mit à marcher dans ce désert tout en pensant à sa nouvelle inachevée.
Sur ce, un aboiement euphorique le tira de sa méditation.
Alfredo se mit à courir, désespéré, mais la chienne Saint-Bernard, qui était évidemment plus athlétique que l'écrivain, le rattrapa bientôt et, en le renversant, lui lécha le visage.
Une sensation de joie inattendue envahit Alfredo. En constatant que cette langue était bien réelle.
Il se reprit, se releva et, suivi de la fidèle Narcisa, qu'il caressait déjà, il quitta les lieux.
Miami Beach, avril 1986. Monstre.
Dans cette ville aussi, il y avait un monstre.
C'était une combinaison d'artères qui suppurait. de trachées qui oscillaient comme de furieux pistons, de grands cheveux hirsutes, de cavernes changeantes et d'énormes griffes qui communiquaient directement avec de sinistres oreilles.
Au point que tout le monde vantait la beauté du monstre.
Impossible d'énumérer les odes composées par tous les poètes de renom.
Les autres ne purent figurer dans les anthologies.
En l'hommage à l'arôme délicat qu'exaltait son anus, ou plutôt ses anus, car un seul intestin n'eût pas suffi à sa tâche.
Si grande était sa capacité d'absorption et d'engloutissement.
Que dire de la diversité des sommets inspirés par sa bouche?
Bouche qui, divisée en plusieurs compartiments, gardait dans l'une des vomissures que le monstre, au paroxysme de ses orgies, évacuait. Elle restait en dépôt dans ce grand étang, subissant une sorte de cuisson au naturel, bouillon de culture, encore plus délectable pour ce palais monstrueux.
Quant à ses yeux, rougeâtres et chassieux toujours, les poèmes qu'ils inspirèrent ne sauraient être même sommairement inventoriés.
De son corps, fait aux dimensions de plusieurs hippopotames difformes, il va sans dire qu'il fut la source d'inspiration permanente des dames les plus éthérées comme des éphèbes les plus viriles.
Héros, étudiants, soldats, ouvriers, ministres et professeurs surent s'extasier devant une aussi fière allure. Myrta Aguirre a commis ses Venancio,
chants de Noël,
que parmi des millions, le hasard m'a mis entre les mains.
Grand comme le mont Torquino, radieux comme les soleils matutinaux, sa voix n'est pas voix mais gazouillis, son pas n'est pas marche mais cafouillis.
Dans cette ville, tout le monde aimait le monstre.
Lorsqu'il chantait, c'est ainsi que l'on nommait les ravages émis par sa gorge, quelle foule rassemblée pour applaudir dévotement.
Lorsqu'il déféquait, quelle queue interminable pour humer de loin les monumentaux effluves du monstre.
Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit.
Quelqu'un se mit à parler en mal du monstre.
Tout le monde, bien entendu, crut qu'il s'agissait d'un fou et
réclamait
sa prompte extermination.
Celui qui parlait prononçait un discours agressif qui commençait à peu près de cette manière.
Dans cette ville aussi, il y avait un monstre. C'était une combinaison d'artères qui suppuraient, de trachées qui oscillaient comme de furieux pistons.
Et il poursuivait ses attaques solitaires et violentes, héroïques.
Quelques femmes, de loin, s'arrêtèrent pour écouter.
Les hommes, toujours plus civilisés, se réfugièrent derrière les portes. Mais lui continuait de déblatérer contre le monstre.
Ses yeux rougeâtres et chassieux, toujours.
Enfin, comme personne ne l'assassinait, tous commencèrent à l'écouter. Ensuite, à le respecter.
Finalement, à le vénérer, et il paraphrasait ses discours contre le monstre.
Quand son pouvoir fut devenu tel qu'il avait réussi à abolir le monstre et à occuper sa place, tous purent constater
il ne cessait de parler contre le monstre,
qu'il était le monstre.
La Havane, 1972.
La table.
Ces temps-là aussi étaient abominables.
L'ennemi s'était emparé de tous les astres avoisinants, et la terre était assaillie de menaces, d'explosions, d'offenses qui contaminaient l'atmosphère et se disséminaient, raréfiant nos espoirs les plus persistants.
L'ennemi avait altéré les mouvements de translation cosmique. Les constellations tournaient follement.
À tout moment, la faim pouvait survenir.
L'ennemi nous avait envahis d'une plante étrange qui s'étendait maintenant sur la mer et sur les rochers.
Elle faisait pression en asphyxiant.
Dans cette clarté qui s'avançait, nous pouvions voir la face écorchée de la lune tomber elle aussi au pouvoir de l'ennemi et qui nous envoyait des irradiations mortifères.
L'ennemi,
nous disait-on,
provoquait ces explosions souterraines et nous périssions dans les écroulements et le fracas.
L'ennemi nous menaçait continuellement.
L'ennemi promettait d'éliminer toutes les images.
L'ennemi, parfois, parvenait à faire émettre par le soleil des lueurs fulgurantes qui, en fondant l'air, évaporaient une partie des océans.
Les fleuves n'existaient plus.
L'ennemi dirigeait notre folie.
L'ennemi modifiait notre conception de la terreur.
L'ennemi triturait toutes les dévotions et les plans à longue échéance.
L'ennemi assumait notre faute.
L'ennemi.
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 Bien entendu, nous mourions de faim.
La fureur seule stimulait la planète.
Mais il y avait une table.
Ce n'était pas une table très longue.
Ce n'était pas une table bien fabriquée.
Je crois même qu'elle était branlante.
Personne ne s'était soucié de la polir.
Les résidus avaient formé de grands déchets sur lesquels planait une immense essaim de mouches.
Oui, il y avait une table, derrière laquelle démarrait une queue qui se perdait à l'horizon incertain.
Les gens dans la queue,
l'ennemi ne cessait de nous lancer des fracas foudroyants,
avaient du mal à contenir leur hystérie.
La table ne disposait que de deux sièges.
Les gens dans la queue,
l'ennemi faisant rouler les rugissements de ses menaces,
se griffaient, se frappaient.
Parfois, il déchaînait une telle violence tandis qu'il se dépeçait que, pour quelques instants, les détonations de l'ennemi étaient étouffées dans l'air soumis.
Mais tous, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui réussissaient à garder la vie sauve dans cette fureur et ces explosions, nous restions fermement à nos postes, à donner des coups de pied, à égorger avec de minuscules couteaux.
On dit que l'ennemi les fournissait.
La personne la plus proche.
Nous tenions bon, ainsi, avec nos sacs et nos bouteilles, nos assiettes et nos cuillères, le tout gardé et défendu au péril de notre vie.
Nous tenions bon ainsi, fixes dans l'immense file d'attente qui débouchait devant cette petite table vide.
L'ennemi, naturellement, faisait tout son possible pour nous disperser.
Nous, tout notre possible pour nous anéantir.
Mais quand, deux par deux, réunis par le hasard, nous arrivions devant la table et que nous nous asseyions maintenant, dos à la foule, nous étalions nourriture et boissons,
conservées grâce à des mois d'abstinence.
Nous commencions à nous regarder sans cesser de rire.
Tel était le bonheur que nous éprouvions à ce moment-là.
Tel était l'amour que l'on oubliait, la nourriture, les boissons, les menaces, les coups reçus ou réciproquement assénés.
L'éternelle épouvante.
Et l'on consumait notre tour si bref à rire et à nous contempler tandis que, au-dessus de nos têtes, les mouches et les astres bourdonnaient en explosant.
La Havane, 1969.
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est-à-dire ?
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez toutes oui, non ?
Non.